Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et jusqu'à 19h, ça fait débat, le débat politique du samedi soir. Bonsoir à Razi Hammadi.
Bonsoir.
Parti socialiste. Bonsoir à Othmane Nasrou.
Bonsoir.
Des Républicains. Lundi, motion de censure portée par la NUP contre le gouvernement Borne. Est-ce que les LR vont rejoindre la NUP dans cette motion de censure, Othmane Nasrou?
Je crois qu'il y a assez peu de chances que nous mêlions nos voix à celles de la France insoumise.
Pourquoi?
Et chacun le comprendra, parce que nous avons des divergences
chacun
profondes.
Chacun comprendra, c'est trop facile.
Alors je vais vous détailler cette réponse. D'abord parce que nous ne sommes pas là, nous, pour bloquer le pays. Parce qu'une motion de censure qui a été annoncée avant même le discours de politique générale de la Première ministre, sachant qu'il n'y a pas de majorité alternative, et donc il n'y a pas de gouvernement alternatif aujourd'hui, ça sert à quoi, si ce n'est à être dans l'agit-prop, à être dans cette forme de contestation, un coup dans les urnes, un coup dans la rue, qui est propre à l'extrême gauche. Nous, à droite, nous avons un autre chemin, une autre responsabilité, c'est de faire passer des décisions qui vont dans le bon sens. Et c'est pour cela qu'on met sur la table des propositions de fond. On laisse les extrêmes, eux, essayer de bloquer le pays. Ça n'est pas notre rôle. Et au contraire, on essaiera de faire avancer les sujets.
Razi Hammadi, vous voulez bloquer le pays?
Ah non, mais moi je partage pas du tout. Cela. Moi je pense qu'il y a, il y a toujours un combat historique de la gauche dans ce pays qui est un combat, c'est injuste, c'est peut-être illégitime, c'est peut-être discutable, mais en tout cas c'est un fait. La gauche a toujours dû se battre pour apparaître comme crédible. Mmh. D'accord ? D'où l'expression « la gauche de gouvernement ». D'ailleurs, on ne parle jamais de la droite de gouvernement. Mmh. La droite, par définition, elle est de gouvernement. C'est-à-dire que, par définition, même si à chaque fois qu'ils sont passés par le pouvoir, c'est là que les déficits se sont le plus accrus. Oh. C'est historique. Non, c'est comptable. C'est comptable.
C'est une légende. Non, mais c'est,
et souvent, la gauche a été rappelée au pouvoir pour rétablir aussi les comptes, malheureusement.
Avec des impôts.
Avec des impôts, des économies. En même temps, c'est la gauche de responsabilité. Donc la gauche de responsabilité, je pense qu'elle n'a pas vocation à se mêler à ce type d'initiative, qui, en effet, n'est pas à la hauteur. Mais qui fait écho aussi à ce qu'a été l'attitude des parlementaires, malheureusement, de la France insoumise pendant le discours de la Première ministre.
Mais il y a des socialistes dans la NUP et qui vont de facto suivre la NUP dans cette motion de censure.
Je ne crois pas que ça soit...
Qu'est-ce que vous leur dites? Ou qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, plutôt? Ça serait intéressant.
Dans les discussions qu'on peut avoir, eux vous répondent « Oui, mais si on faisait pas ça, on faisait quoi ?»
Je fais
« D'accord, c'est quand même un aboutissement... d'une réflexion politique profonde et très aboutie que de réfléchir ainsi. Moi, je réponds qu'il y a aujourd'hui un espace pour une gauche de gouvernement qu'il faut construire. Il faut avoir cette passion pour le débat d'idées. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a des différences avec la droite, avec la droite républicaine, avec l'extrême droite, évidemment, et qui sont des marqueurs historiques dans la période dans laquelle on est, sur l'environnement, sur la répartition des richesses, sur la fiscalité du patrimoine. Bon, je pense qu'il y a...
Donc mais vous dites, on peut se parler...
Mais pas en racontant n'importe quoi et en agissant n'importe comment.
Censure, c'est n'importe quoi, n'importe comment.
Je vous le dis, c'est la phase B, en fait. C'est l'album, il est sorti la semaine dernière, donc vous aviez le brouhaha en face A sur le discours de la Première ministre. Je veux dire, même les gens plutôt de gauche qui sont chez eux, qui voient la situation du pays, ils voient cette manière de faire de la politique, de se comporter en tant que parlementaire, ils disent, mais c'est scandaleux, ils se croient où? C'est quand même l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus choqué que quelqu'un a joué plus fin dans cette affaire-là, Marine Le Pen, qui a bien dit à ses parlementaires, vous mettez une cravate et vous n'insultez pas la Première ministre. Donc, à un moment donné, il s'agit aussi de connaître et de comprendre son pays. Je ne crois pas que lorsqu'on connaît et qu'on comprend son pays, on pense que les Françaises et les Français souhaitent ce type d'attitude. Eh bien, la motion de censure, c'est un peu le débouché de cette attitude, parce qu'en effet, elle n'a pas de débouché politique, elle n'est qu'une posture. Et toute posture en politique est une imposture.
Othmane Nasrou.
Mais moi, je suis très heureux de ce que j'entends dans la bouche de Razi Hammadi. Malheureusement, il y a eu une alliance, cette fameuse NUPES, c'est le signe aujourd'hui de la disparition
avec
de la gauche républicaine.
Avec des dissidents socialistes.
Oui, mais quel est leur débouché politique aussi? Dans les faits aujourd'hui, le Parti socialiste s'est vendu à Jean-Luc Mélenchon.
Vendu.
Il n'y a pas d'autre mot, oui, pour sauver une trentaine de circonscriptions. Ils se sont alliés avec des gens avec lesquels, il me semble, ils ont des divergences majeures sur la laïcité, sur l'Europe, sur le nucléaire, sur le rapport à la République. Et on se retrouve, ils sont maintenant pris en otage avec des hurluberlus qui jouent l'agitation à l'Assemblée nationale, qui n'ont rien à proposer si ce n'est la contestation et la lutte des classes. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que le débat démocratique mérite mieux. Donc je suis moi très triste de cette situation-là. Je ne m'en réjouis pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a, avec Olivier Faure, a commis une erreur majeure, une faute morale impardonnable parce que Ils étaient les héritiers d'une tradition qui n'était pas la mienne, mais que je respectais. Et aujourd'hui, ils se sont vendus, encore une fois, ils ont basculé du côté de l'extrême gauche. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche. Quelqu'un qui dit que la police tue, quelqu'un qui dit que la République, c'est lui, quelqu'un qui s'oppose à des procédures en justice qui le visent, quelqu'un qui explique qu'un attentat, c'est forcément un complot. Il a eu des propos de ce type-là. Eh bien, c'est quelqu'un qui est pour moi en dehors du giron de la République. Et je suis vraiment très triste que la gauche ait fait cette alliance. Et je crois que d'ailleurs, ils en paieront le prix.
Mais alors, là où de nombreux républicains ont dit on va pas faire, on va pas être l'antichambre de Renaissance pour faire, voilà, pour soutenir les textes à chaque fois qu'ils arrivent. Cependant, il y a une façon de faire des compromis à travers des amendements. Attendez, j'ai pas fini ma question. Vous voyez que effectivement, ce que vous venez de dire, Othman Nasrou, c'est un blocage permanent. Est-ce que ça veut dire que du coup, on part du principe que ni RN ni NUP, et on part du principe que sur 577 députés, on enlève les 89 du RN et les 150 de la NUP, et on fait sans eux?
Ben ça, c'est le gouvernement qui voit. Ils font comme ils veulent.
C'est le gouvernement qui voit, mais...
La question, c'est pas avec qui ils font. C'est qu'est-ce qu'ils font? Parce que je suis quand même frappé que ni l'élection présidentielle ni les élections législatives n'ont permis de trancher un projet clair du côté d'Emmanuel Macron et de sa majorité. On a enfin le discours de politique générale de la Première ministre. Enfin, il y avait beaucoup de généralités. Hein.
Est-ce que l'Assemblée va fonctionner avec les 250 de Renaissance, j'arrondis, et les 146, je crois, et les 62 des Républicains? Point barre, et on n'écoute pas le reste.
Non, mais elle va fonctionner avec les 577 députés. Il y a des commissions, il y a des procédures. Tout le monde va participer, c'est bien normal. Et moi, je considère que tous les députés sont respectables, hein, puisqu'ils ont été élus. Donc, moi, il faut respecter la volonté populaire.
Tous les députés sont respectables. Vous aurez vu que Elisabeth Borne a cité les présidents de groupe, sauf deux.
Écoutez, elle fait ce qu'elle veut, mais simplement, il y a un moment où si on veut que les gens... Moi, je ne veux pas que les électeurs votent pour le Rassemblement National ou pour la NUPES, parce que je considère que c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais si on veut les faire revenir, il ne faut pas les insulter non plus. Hein. Ils ont donné leur voix à des candidats que je combats sur le terrain des idées, mais il n'y a pas de sous-citoyens dans ce pays. Ils les ont élus, il faut les combattre sur le terrain des idées. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est quels sont les projets de loi qui vont être adoptés.
Moi, je pense qu'on ne peut pas à la fois dénoncer une certaine façon de faire de la politique qui est une façon de faire la politique de la part, j'ai entendu ça, de la part de certains à droite, de certains à gauche vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur le thème aujourd'hui on détruit les clivages, la recomposition laisse un champ de ruines et sur les champs de ruines on reconstruit rien, donc on récolte ce que l'on sème. Enfin bon, vous voyez très bien ce discours. Et en même temps, faire un petit peu la même chose lorsque on caricature et qu'on simplifie les clivages. Moi, je ne suis pas d'accord pour mettre un signe égal entre la France insoumise et le Front National. Enfin, y a, d'un côté, on peut dire qu'il y a une idéologie avec laquelle on n'est pas d'accord sur la laïcité, etc. De l'autre côté, on a une idéologie qui peut mener à la mort, quand même, très concrètement. Ben, comment l'extrême droite, vous savez très bien qu'il y a un parti dont les militants ont quand même tué des couleurs d'affiches. Ils n'étaient pas animés.
Parce que l'extrême gauche, elle ne tue pas dans notre pays. Il n'y a pas une extrême gauche qui agresse des gens physiquement.
Vous n'avez pas une extrême gauche politique qui se présente aux élections qui a tué des gens?
Je ne vais pas défendre le Rassemblement National, mais il me semble que là aussi, vous avez une extrême droite hors parti qui fait.
Ce que vous faites.
Ben, simplement, je ne laisserai pas dire que la France Insoumise, ce n'est pas l'extrême gauche.
Vous avez eu des militants du Front National qui ont jeté des gens dans la Seine et des couleurs d'affiches du Front National qui ont tué des jeunes gens dans la rue, oui ou non?
Des militants de partis anticapitalistes qui sont aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que vous avez eu des militants
qui ont agressé les gens?
Non, clairement.
Pour moi, est-ce que vous avez honnêtement, eu... les deux sont en dehors du giron de la République.
Attendez, ça c'est... Comment dire? C'est un fait que vous évoquez comme établi. J'essaye de le démontrer, ou en tout cas de le démonter. Est-ce qu'il y a eu un jour des militants de la LFI dont les actes ont mené à la mort de gens?
Ça n'existait pas il y a encore quelques années, mais il y a eu une tradition à l'extrême gauche.
Non, je ne vous parle pas de tradition.
On ne
peut pas mettre un signe égal. Et d'ailleurs, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas de militants du Parti communiste. Vous ne trouverez pas. Au contraire, ils sont morts pour la France.
Attendez, d'accord.
Non, il ne faut pas tout mélanger. Mais c'est ce qui me différencie.
On va un peu loin.
Mais les communistes.
Dans ce cas-là, on peut remonter à Staline, on peut remonter à Trotsky. Pardonnez-moi.
Ah, oui,
vous voyez ce que
je veux dire.
Si vous dites l'extrême gauche et l'extrême droite, on peut dans ce cas-là élargir au niveau mondial et dans ce cas-là, vous allez en trouver.
En France, les camps politiques, vous ne pouvez pas faire un signe égal entre le Front National et la LFI. Que certains en marche le fassent, je veux bien. Mais quand Xavier Bertrand, par exemple, dans les Hauts-de-France, LR, appelle à voter communiste contre l'extrême droite, il sait lui qu'il y a quand même des valeurs républicaines qui structurent à boussole. Mélenchon, il était allié aux communistes il y a quelques années. Bon, et on n'a pas dit c'est l'extrême gauche. Donc attention, moi ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens sur ce plateau qui, je crois, sont dans le champ républicain. Le champ républicain, pour être préservé et garder une colonne vertébrale, il ne faut pas que nous on raconte aussi des choses qui sont racontées par des gens.
La France insoumise, pour vous, c'est dans le champ républicain ?
La France insoumise,
c'est dans le champ républicain pour vous ?
Oui ou non ? Je pense qu'il y a certains militants chez la France insoumise qui racontent n'importe quoi et qui ne sont pas dans le champ républicain, sauf qu'aujourd'hui, sur
Jean-Luc Mélenchon, on peut dire qu'il est encore dans le champ républicain.
Pour moi, Jean-Luc Mélenchon est dans le champ républicain.
Quand on manifeste aux côtés du collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous par le gouvernement parce qu'il s'en prend à la République.
Moi, je considère.
Vous trouvez
Mélenchon,
ça tout à fait normal pour un candidat à la présidence de la République ?
Pour l'avoir côtoyé, même si je trouve que c'est scandaleux de dire la police tue, de se mettre au milieu d'une porte d'entrée en disant la République c'est moi et en hurlant sur des policiers, je considère, toute chose pesée par ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon est un républicain.
Et il vous a pris en otage, en fait.
Non, du tout.
Mais non, vous ne pouvez plus le critiquer.
Non, parce que j'essaye d'être honnête, même si je suis le dernier défenseur de la France insoumise. Voilà. Mais à un moment donné, je pense qu'on peut aussi être en désaccord et pas dire n'importe quoi.
On va parler des textes qui arrivent. Le premier, c'est évidemment le texte sur le pouvoir d'achat avec la fin d'un bouclier tarifaire. On va vers d'autres aides. On ne sait pas jusqu'à quand. On va attendre le texte tel qu'il arrive. Mais comment est-ce que vous le voyez, vous, Othmane Nasrou, ce texte sur le pouvoir d'achat ?
Moi, je vois beaucoup de dépenses. Certaines se justifient, d'autres un peu moins. Cette usine à gaz sur l'indemnité pour le carburant qui est faite d'une procédure de demande en ligne avec des déciles, avec des majorations dans certains cas, avec des seuils de partout, c'est typiquement la technostructure et la suradministration de ce pays qui accouche d'une usine à gaz. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, je suis très... très circonspect. Sur d'autres mesures, elle se justifie pleinement, y compris sur certaines.
Sans jeu de mots,
la réindexation des pensions de retraite que nous demandions, nous, depuis 2017, naturellement, que c'est une bonne mesure. C'est d'ailleurs les mêmes qui l'ont désindexée, qui veulent les réindexer aujourd'hui. Donc ça, je n'ai pas de problème. Mais je ne vois toujours pas d'économie en face. Je ne vois toujours pas de réforme de structure. On a accumulé sous Emmanuel Macron une montagne de dettes. On nous expliquait il y a 3 mois que la dette n'était pas un sujet. Aujourd'hui, on nous dit que ça devient un gros sujet et ça va être un gros sujet dans les mois à venir.
Parce qu'on comptait sur la croissance, qui n'est finalement pas attendue que prévu.
Ça, c'est là où on voit qu'Emmanuel Macron et François Hollande sont dans la continuité, parce que François Hollande aussi nous expliquait beaucoup qu'on misait tout sur la croissance. Moi, je ne crois pas. Je crois que le budget de l'État, il est en profond déséquilibre. Qu'on n'a pas fait les réformes en temps et en heure, pas de réforme des retraites en temps et en heure, pas de réforme de l'État, pas de réforme territoriale. On n'a pas dégagé les marges de manœuvre. On a accumulé une montagne de dépenses, de chèques ponctuels qui ne sont pas du pouvoir d'achat pérenne que nos enfants vont payer dans les années à venir. C'est totalement irresponsable. Il faut des réformes de structure et il faut surtout que le travail paye mieux et qu'on arrête à chaque fois avec ces versements ponctuels qui sont des logiques de court terme. Ce que les Français veulent, c'est vivre de leur travail. Donc nous, on demande la baisse des charges sur le travail, l'annulation de la hausse de la CSG pour les 8 millions de retraités qui continuent de subir une hausse de la CSG décidée par Emmanuel Macron en 2017. Et nous demandons effectivement, plutôt que l'État arrête de prélever des taxes, plutôt que de reverser d'une main ce qu'il reprend de l'autre.
Mais Razia m'a dit pour le PS.
Mais j'ai l'impression que quelquefois que le pendant du discours d'une certaine droite, c'est le pendant du discours, ou en tout cas de ce que peut dire aujourd'hui l'exécutif. Nous, on voit un certain nombre de sujets, notamment moi, en tant que dirigeant d'une agence d'information, New Stank Cities, sur les questions urbaines, où on passe au crible à la fois les dépenses des collectivités, des intercos, le budget de l'État, les différents postes qui nous concernent, la transition énergétique, le logement, l'habitat, tout ça, etc. Bon, quand on regarde ça dans le détail, on se dit qu'il y a juste un petit problème à la fois de pédagogie, de priorité et de répartition. Pédagogie, pourquoi ? Grosso modo, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de dépenses. Je viens d'entendre M. Azon là à l'instant. Il parlait que de dépenses, c'est-à-dire que lorsqu'on dit on valorise le travail, il y a deux façons de valoriser le travail. Soit on dit qu'on augmente le salaire brut, d'accord ? c'est-à-dire qu'on demande à l'employeur de payer plus. Je ne crois pas que ce soit ce que LR propose, puisque je ne l'ai jamais entendu. Ou on augmente le salaire net. Donc, on réduit finalement la part de brut. Donc, on réduit des ressources sociales pour l'État. Donc, ces ressources-là, comment on les finance ? Point 1. Point 2, on parle...
Ça, c'est une dépense pour vous. Quand l'État prend moins, il dépense.
Avec quand
c'est
l'État
le seul pays
quand
au monde ou quand l'État prélève moins,
je ne vous apprends rien.
C'est une dépense.
Je ne vous apprends rien.
Budget.
Je ne vous
apprends rien. Mais ça n'est pas une dépense.
Je ne vous apprends rien.
Très, très important.
Je ne vous,
vous
apprends rien en vous disant que le budget est voté à l'équilibre quand même.
Alors je ne mêle pas.
Il y a un déficit. Je ne mêle pas. Mais c'est très important.
Il y a un déficit.
En l'occurrence, il n'est pas voté à l'équilibre.
D'accord.
Mais c'est pas une dépense.
Vous avez un déficit.
C'est une moindre recette. C'est pas la même chose.
En théorie, avec l'année dernière.
Continuez.
Mais bon, ce brut-là, faut le financer. Vous le financez d'où?
Ben aujourd'hui, des économies en face.
D'accord, ok. Donc ben aujourd'hui, oui. Le problème, c'est que pour le moment, les Républicains, lorsque vous parlez avec eux, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est les seuls qui sont en capacité ou en tout cas qui ont une expression là-dessus, dans tout le champ républicain. C'est les seuls qui disent il y a des dépenses, mais il faut aussi des recettes ou en tout cas, il faut des économies. Sauf que quand vous les écoutez, ils n'ont qu'une seule origine à cette économie-là, c'est les réformes de structure et notamment les collectivités. Quelles réformes ils sont prêts à faire ou
alors,
à proposer, puisque par exemple, je vous donne un exemple, l'Association des maires de France est dirigée par les Républicains, enfin, ouais. En tout cas par un président, les Républicains, même s'il n'est pas tout seul, est collégial. Quelles sont les propositions qui sont faites à ce niveau-là, notamment sur ce que certains appellent le millefeuille territorial et comment il est réorganisé,
bon,
etc. Deuxième chose, j'en termine par là, je pense qu'il y a quelque chose de très grave dans notre pays, c'est-à-dire qu'on peut être de gauche, on peut être de droite, et on peut, a fortiori, de gauche, de responsabilité et gouvernement, et dire... Il faut aussi un équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'on peut, il n'existe pas d'argent magique. Or, là, on est sur 50 milliards quand même de baisse. Jamais ça avait été fait hein, sur le quinquennat précédent d'imposition entre la taxe d'habitation, entre l'ISF. C'est énorme, c'est 50 milliards, c'est pas moi, c'est la Cour des comptes. Sauf que pour ce qui vient là, on finance comment ? Et à un moment donné, il va y avoir le mur de la réalité, pour ne pas parler du mur de l'argent, et ça va faire mal. Par contre, là où on peut faire beaucoup mieux, c'est sur la répartition fiscale.
Alors attendez, laissez parler Otman Nasrou des Républicains, qui va vous donner justement la panoplie de ce qu'il propose.
Mais encore la semaine dernière, Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a demandé à Mme Borne, a proposé qu'on lance un grand plan de débureaucratisation. Nous avons dans notre pays 1 million d'emplois publics en plus que l'Allemagne, pour 17 millions d'habitants en moins. On a, à l'hôpital, par exemple, 30% d'emplois administratifs en plus dans un hôpital français que dans un hôpital allemand.
Mais
on manque
que vous
de soignants.
De tous ces gens,
mais il faut dénormer. Non, mais ce n'est pas les gens, c'est les postes. Les gens, on les redéploiera. Ce n'est pas le problème.
C'est-à-dire,
hein.
on les occupe à faire autre chose.
On a trop de procédures.
Alors,
on a 440
attention sur votre chiffre sur l'Allemagne.
On a un pays qui est
suradministré. Attention sur votre chiffre pour l'Allemagne. Hein.
On a un pays qui est suradministré sur l'hôpital, je vous confirme.
Attention, parce qu'on a une gestion régionale par fondation qui ne comptabilise pas l'emploi.
Voyez,
qui est nécessaire à faire fonctionner l'hôpital allemand.
Moi, je suis élu local. Au contraire, aujourd'hui, le peu d'économies qui sont faites, elles se reposent sur les collectivités. L'État ne fait pas d'efforts et demande aux autres de les faire. Et donc, au contraire, nous, on veut prendre plus de responsabilités. Il y a des choses que les collectivités pourraient faire, que l'État devrait délaisser, et nous les ferons mieux pour moins cher. Et je peux donner beaucoup d'exemples. Les ARS, par exemple, pour rester sur le sujet de la santé, devraient passer sous le giron des régions. Et on pourrait ainsi mutualiser
là,
beaucoup de choses.
On peut se rejoindre
donc
sur cet espace.
Donc il y a des réformes de structure pour
exemple.
Dégager des marges
mais
de manœuvre.
Mais je suis d'accord. Et c'est là, moi, je pense que vos auditeurs seront intéressés d'entendre cela. Moi, c'est quelque chose qui me fait terriblement mal en tant que citoyen et en tant que citoyen engagé, on va dire, même si aujourd'hui je suis retiré de la vie partisane. Prenons le pouvoir d'achat. Le premier poste de dépense des Français, c'est le logement. Est-ce que vous avez entendu le logement être débattu pendant l'élection présidentielle ? Que nini ? Rien. Pas une proposition, pas de discussion, tout le monde s'en fout. C'est le premier poste de dépense des Français. Le logement, aujourd'hui, il est financé comment en France ? Vous avez du zonage qui permet de l'éparpillement fiscal et de la dépense avec tel Pinel à tel endroit, telle zone A, telle zone B, telle zone C. Est-ce qu'on ne se mettrait pas autour de la table en disant telle communauté urbaine, telle communauté d'agglomération, combien vous allez produire de logement sur les 3 ans, sur le triennal, ce qui est nécessaire pour produire un logement, déposer un permis de construire et voir à quel niveau il arrive. Aujourd'hui, vous avez un permis de construire sur deux qui est refusé. Parce que les plans locaux d'urbanisme ne sont plus le point de départ de la discussion, mais c'est le plafond et on discute en dessous. Donc, comment on fait pour dire aux collectivités, voilà l'objectif de production de logement et le financement de la collectivité, il est contractualisé là-dessus. Combien vous avez produit de logements ? Quel type de logement ? Ok, Eh ben, dans ce cas-là, la dotation globale de fonctionnement, aujourd'hui, on a la nécessité de territorialiser, de différencier, alors, de contractualiser et enfin d'atteindre des objectifs qui sont des objectifs de transition environnementale
de
et de gain de pouvoir d'achat.
Parce qu'après, je voudrais vous interroger sur autre chose encore.
Je ne comprends pas, parce que s'il y a une difficulté aujourd'hui à, effectivement, à faire face aux dépenses de logement, alors que vous avez dit qu'il y avait 50 milliards d'impôts au moins. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Ce qu'on a baissé en impôts, le gouvernement l'a augmenté en taxes. Vous le savez très bien, c'est un jeu de bonneteau sur beaucoup de choses. Les impôts n'ont pas baissé. Vous demandez aux Français, sinon ils n'auraient pas ces problèmes de pouvoir d'achat. Les prélèvements obligatoires n'ont pas baissé massivement dans notre pays ces 5 dernières années. La taxe, taxe carbone à elle seule, c'est 5 milliards de recettes supplémentaires. Donc en réalité, on a effectivement baissé certains impôts, mais on en a augmenté d'autres.
Et
vous le savez très bien.
Et
vous le savez très bien. Et on l'a fait parce que nous n'avons pas fait
de
réforme de structure.
C'est important de revenir aux ordres de grandeur, parce que la proposition de M. Marleix sur la bureaucratisation, elle est expertisée. Lui-même l'a expertisée. C'est-à-dire, il dit, voilà, il y a tant de fonctionnaires qui touchent plus de 5 000 euros qui font rien, c'est un milliard.
Dernier sujet, parce qu'on ne vous mettra pas d'accord sur le financement, c'est du régalien, et ça va vous intéresser, Othmane Nasrou. La sortie de Gérald Darmanin aujourd'hui dans Le Monde, le ministre de l'Intérieur souhaite permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice. Il ne précise pas ce que c'est qu'un acte grave, mais enfin, il dit un acte grave par la justice. Et cela, quelle que soit sa condition de présence en France, y compris une arrivée avant l'âge de 13 ans, avant ce seuil de 13 ans. Est-ce que c'est une bonne réforme ou pas ?
Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas le principe, c'est l'exécution. On n'arrive déjà pas à expulser des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui font l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Vous savez combien on en reconduit à la frontière aujourd'hui ? 6%. 6%. Et les chiffres se sont effondrés, d'ailleurs, sous Emmanuel Macron et sous Gérald Darmanin. Donc moi, je veux bien qu'on prenne des postures politiques, que le ministre de l'Intérieur se rende compte tout à coup.
Vous savez qu'il y avait un problème de visa consulaire, on ne va pas rentrer dans
le débat. Non, mais attendez,
débat,
peut-être, mais quand nous étions en responsabilité, quand la droite de gouvernement, comme dit Razi Hamadi, était aux responsabilités, eh bien, il y avait 4 fois plus de reconduite à la frontière. Donc c'est qu'on pouvait quand même faire mieux. Si les chiffres se sont effondrés, ce n'est pas à cause des visas consulaires, parce que la difficulté, celle-là, elle a toujours existé. Mais la réalité, c'est que ça a manqué aussi de volonté politique. Donc que bien sûr qu'un étranger en situation. Un étranger, quelle que soit sa situation administrative, qui se comporte mal, qui ne respecte pas les règles, qui se rend coupable de crimes, bien sûr qu'il n'a pas vocation à rester sur le territoire français, c'est logique, mais je doute sincèrement de la capacité de Gérald Darmanin à réellement le mettre en œuvre quand il n'arrive même pas à faire appliquer la...
Mais voilà un sujet, comme je vous disais tout à l'heure sur le logement, où il y a une gauche de gouvernement qui devrait penser de manière différente et d'arrêter de raconter n'importe quoi.
Mais ça veut dire quoi?
Donc ça veut dire quoi concrètement? Il y a deux sujets. Il y a la question de la reconduite à la frontière. Quand vous discutez avec des sans-papiers, j'en ai eu dans ma famille, 2 sans-papiers sur 3 vous disent « je suis sans-papiers parce que j'ai tellement galéré pour venir que je préfère rester parce que je ne sais pas comment je ferai pour revenir ». Mais vous en avez 90% d'entre eux qui vous disent « si je pouvais partir et revenir, moi, il n'y aurait aucun problème, je ne resterais pas en France ». Deuxième chose, vous avez une prime à l'irrégularité. C'est-à-dire si vous restez 5 ans et que vous remplissez un certain nombre de conditions, vous pouvez être régularisé. Donc, vous avez plutôt intérêt à rester 5 ans, à venir nourrir les bataillons de l'armée des travailleurs qui sont payés à 40% d'en dessous le SMIC lorsqu'ils livrent votre hamburger ou votre pizza parce qu'ils travaillent avec l'identité d'un autre, et plutôt faire ça. Et ensuite, ce que dit M. Darmanin, mais c'est déjà dans le cadre de la loi quasiment. C'est-à-dire que ça existe c'est-à-dire la reconduite, elle peut être décidée par le juge, y compris avant 13 ans, si la personne n'avait pas fait la demande de nationalité
de
ou de
séjour,
je ne sais quoi. Donc ça
se révoque,
donc ça existe déjà. Donc j'ai envie, moi, de dire sur ces sujets-là, permettons aux artistes, aux investisseurs, aux entreprises, aux jeunes qui veulent se former, de partir et de revenir quand ils veulent. Par contre, qu'on n'ait pas ce système de primes et qu'on revoie la contractualisation, y compris sur le regroupement familial et sur le cadre social qui accompagne l'immigration.
C'est ça la réalité des choses.
Mais c'est ça le nouveau discours qu'il faut avoir.
Alors,
à mon sens.
Mais là, on ne sera pas d'accord. Et heureusement,
pourquoi
il y a encore un clivage droite gauche en ce pays. Vous me dites, en gros, si quelqu'un est en situation irrégulière, ce qu'il faut, c'est lui donner la possibilité de partir et de revenir.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que s'ils étaient en situation irrégulière, c'est parce qu'on ne leur permettait pas de partir et revenir souvent.
On ne leur permettrait pas de partir et revenir s'ils sont en situation régulière.
Mais parce que vous avez sûrement dans votre famille, dans vos proches, des gens qui demandent des visas, qui n'ont aucun problème, qui sont étudiants, qui sont chefs d'entreprise, qui sont chercheurs et qui galèrent pour avoir un visa.
Nous, on se bat à droite pour des quotas migratoires que tous les ans on définisse précisément. Le problème, c'est qu'on n'a pas de politique migratoire dans notre pays. Donc on a une politique qui soit votée au Parlement et qui définisse les règles de manière très précise. Et combien on peut accueillir vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas me dire que pour avoir. Ne pas avoir d'immigration irrégulière, il faut accepter absolument tout le monde. Parce que si je comprends bien, c'est ce que vous me dites.
Mais le problème, il est pas là. Vous avez des pays aujourd'hui pour lesquels il n'y a aucune difficulté à s'y rendre. Par contre, une fois que vous y êtes, On vous dit pas, vous allez avoir droit à telle prestation, vous allez avoir droit à telle situation si vous êtes en situation irrégulière, ce qui est le cas en France.
Et une fois vous trouvez qu'il y a une politique sociale trop généreuse ?
Je pense qu'elle n'est pas remise en perspective par rapport aux contraintes qu'on offre à ceux qui n'ont aucun problème et aucun souci et qui veulent venir s'intéresser à ce qu'est notre culture, investir, étudier, se former, participer à la création
cas,
de richesses.
Aujourd'hui,
c'est très difficile. C'est quasiment impossible. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prime à l'irrégularité.
Il
n'y
a jamais eu autant de titres de séjour délivrés. Jamais. Record en 2019 sous Emmanuel Macron. Et en 2021, on est quasiment au record à nouveau. Donc, je ne sais pas où vous avez vu que c'était difficile, que les flux migratoires envers notre pays étaient limités.
On vit peut-être pas dans le même monde. Moi, je dirige un diplôme. J'ai des gens qui ont des bacs plus 5, qui sont ingénieurs et qui sont architectes et qui n'obtiennent pas leur visa pour venir étudier. Donc moi, je ne vous parle pas des statistiques dont vous me parlez, je vous parle de la réalité que je vis.
Des chiffres
j'enseigne
avec
ici à quelques,
240,
à quelques centaines de mètres.
000 titres de séjour non.
Il n'y a pas besoin de faire appel à telle ou telle statistique. C'est la réalité qui est vécue par des écoles d'ingénieurs, par des écoles de commerce. Dans ce domaine-là, par exemple, obtenir un visa, c'est très difficile. Moi, je dis... Comme dans d'autres pays, c'est plus difficile de venir en France que d'aller aux États-Unis et en Angleterre lorsque vous êtes sur des visas de type entrepreneurial, culturel, formation, etc. Je dis libérons et relâchons les taux là-dessus et redéfinissons les conditions d'établissement, qu'elles soient irrégulières à l'issue d'une situation irrégulière ou dans le cadre de prestations sociales.
Potman.
Mais ce que je note, si on m'avait dit que Razi Hamadi serait finalement sur cette formule qui nous va très bien, c'est-à-dire immigration choisie et non subie, si je vous suis, parce qu'effectivement, qu'on ait une immigration qualifiée,
après on
n'a
même pas
recrute,
des politiques
etc.
publiques avec des slogans.
Vous n'avez pas la formule, mais c'est exactement ce que vous venez de dire.
Mais
Donc, comme quoi, il y a effectivement des solutions de droite qui commencent à faire l'unanimité dans notre pays.
Et tout en assumant aussi ce qui est notre vocation historique et républicaine et qui fait que la France est la France d'accueillir tous ceux qui sont menacés de mort, tous ceux qui souffrent, les femmes qui risquent leur vie parce qu'elles vivent dans un pays où les valeurs fondamentales ne sont pas respectées.
Merci beaucoup à vous deux pour ce débat du samedi soir. Merci à Razi Hamadi, merci à Othmane Nasrou. Dans un petit instant, le débat de panorama entre grève à répétition et le pouvoir d'achat. Comment partir sereinement en vacances ? C'est la grande question. Ça sera après le journal de 19h. À tout de suite.